Il était une fois.
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 Notre histoire se déroule en l'an de grâce 778, sous le règne du grand Charlemagne. Voilà bientôt 7 ans que le futur empereur est en Espagne pour combattre les musulmans. Tous leurs châteaux, toutes leurs places fortes sont tombées sous les coups de la puissante armée franque. Seul son dernier ennemi reste debout. Marsile, émir de Saragosse, a soutenu vaillamment les sièges et les différentes tentatives des envahisseurs pour prendre sa ville. Mais maintenant qu'il ne reste plus que lui, comment résister encore à la toute-puissante armée française? Marsile demande conseil à ses barons. Que faire pour échapper à la honte et au pillage? L'un d'eux s'avance et prend la parole. Charlemagne et ses preux guerroient depuis bientôt 7 ans. Ils sont fatigués et ne rêvent qu'à leurs femmes et aux châteaux qu'ils ont quittés. Si vous m'en croyez, vous agirez par ruse. Envoyez-leur de riches présents, de l'or, de quoi payer tous leurs soldats. Promettez de rendre hommage à l'empereur et de recevoir même le baptême chrétien. La seule condition que vous poserez est qu'il retourne dans son pays, derrière les Pyrénées, et qu'il vous laisse maître de Saragosse et de l'émirat de Cordoue. S'il faut des otages pour le rassurer, envoyons nos propres enfants. Ils nous sont moins nécessaires que la paix justement arrachée à notre ennemi. Marsile n'hésite pas longtemps à suivre ce sage conseil. Il envoie donc au grand roi 10 barons qui doivent négocier une bonne paix. S'ils y réussissent, ils auront terre et bien à se partager. Lorsque les 10 barons messagers se présentent à lui, Charlemagne discute avec ses preux dans un verger fleuri où son armée se repose. À sa droite se tient Roland, son neveu tant chéri. Sans mettre genoux à terre, les 10 barons délivrent le message de leur maître. Marsile sera son fidèle vassal. Il embrassera la foi chrétienne et lui enverra des richesses en nombre, s'il consent seulement à retourner en France immédiatement. En gage de leur parole, les musulmans enverront à Charlemagne 20 otages parmi leurs plus proches parents. L'empereur reste songeur, car Marsile a toujours été un ennemi rusé. Le jeune Roland, tout bouillant, se dresse le premier. « Croiriez-vous un félon, sire, que vous avez déjà vaincu ?» de par le nombre et la puissance de vos armées. Il prépare quelques nouvelles trahisons. Voilà 7 ans que nous combattons. Alors assiégeons Saragosse, détruisons ses défenses et vengeons ceux que Marsile fit périr. Seulement alors, nous pourrons rentrer en France la tête haute. Tout autre est l'avis de Ganelon. Le vieil homme, peureux de nature, a épousé en seconde noce la mère de Roland et les 2 hommes se vouent une haine féroce. « Sire, la guerre est longue. Marsile offre de nous rendre hommage. N'écoutez pas les conseils dictés par l'orgueil. La sagesse commande de répondre avec courtoisie. Rentrons enfin chez nous, coiffés des honneurs de la victoire. » Et tous les francs de répéter « Il a raison !» Alors Charlemagne acquiesce. Mais quel messager lui enverrai-je? « Mais envoyez Ganelon, puisqu'il est si sage !» s'écrie Roland. Tous applaudissent à ce choix. Seul le lâche Ganelon reste sombre. Il ne pardonne pas à Roland de l'avoir fait choisir pour une mission si périlleuse. Et déjà, il songe à se venger. Pourtant, il part à Saragosse. Ah, plût à Dieu qu'il n'y fût point allé. Arrivé dans la grande cité, il est amené devant Marsile, sous les vociférations des habitants qui n'aiment guère ces envahisseurs chrétiens. Le voilà qui met le genou à terre devant l'émir et qui lui parle en ces termes. Si vous lui prêtez hommage et si vous embrassez la foi chrétienne, oui, Charlemagne vous laissera la moitié de l'Espagne, mais il donnera l'autre moitié à son neveu Roland, en récompense de ses exploits contre vos frères. Il retournera en France et vous n'aurez plus de guerre meurtrière, c'est vrai. Mais songez un instant, il laissera à l'arrière-garde Roland, avec tout au plus 20 000 de ses preux. Vous devriez les exterminer sans grande difficulté, je sais que vos armées sont encore nombreuses. Alors, seulement, vous serez sûr de la paix. L'empereur aura perdu la fine fleur de sa chevalerie. Lui et la France en auront grande honte et grande douleur. Ils seront obligés de passer les Pyrénées sans plus pouvoir revenir. Jurez, lui dit le rusé Marsile, que le terrible Roland et les 12 pairs de France, ces hommes si vaillants, seront à l'arrière-garde. Ganelon jure sur les saintes reliques, et Marsile rit en pensant au terrible coup qu'il s'apprête à donner à son vieil ennemi. Il donne au traître des riches dons avant qu'il ne retourne auprès du futur empereur. Le traître Marsile apporte tous les gages demandés à Charlemagne. Oui, l'émir de Cordoue paiera le tribut. On peut retourner en France. Charlemagne est tout joyeux. Il prépare son retour. Il faut à son armée de preux guerriers à l'arrière-garde et d'autres preux à l'avant. Mais qui commandera ces deux postes à haut risque? Ganelon, le perfide, lui donne ses conseils. À l'arrière, qui mieux que votre neveu Roland tiendra en respect les infidèles? Et à l'avant, mettez donc Ogier le Danois. Sombre pressentiment, Charlemagne croit deviner un malheur qui le guette. Mais Roland a accepté la tâche périlleuse et il ne s'en dédiera pas. Les trompettes sonnent le départ et la puissante armée se lève une dernière fois pour rentrer en France. Les 12 pairs du royaume restent avec Roland, protégeant l'arrière du convoi. Ils sont plus de 20 000, tous braves et forts, à rester à Roncevaux pour protéger l'armée qui s'avance. Pensif, Charlemagne chevauche à la tête. En songe, la nuit dernière, il a vu Ganelon briser la lance de son neveu. Il pense tristement à ce mauvais présage, et les Français partagent ses alarmes. Dieu veuille que Ganelon n'ait pas trahi. Cependant, à Saragosse, Marsile a lancé un appel aux armes, et toute l'Espagne y a répondu. La plaine devant la ville claque des milliers d'oriflammes rassemblés. On dit qu'ils sont plus de 400 000, à jurer par Mahomet qu'ils tiennent ici une victoire facile. Et les voilà maintenant en marche. C'est à Roncevaux qu'ils vont à belle allure, à Roncevaux où se tient la fine fleur de la chevalerie française. Là-bas, les Français discutent joyeusement. Ils ignorent le danger qui s'approche. On n'entend que rires, chansons et verres de vin qui s'entrechoquent. Cependant, le courageux Olivier a grimpé sur un rocher très haut sur la montagne. Et de là, il découvre la campagne environnante. Et ce qu'il voit le fige littéralement sur place. Les armées sarrasines s'avancent de toutes parts. Les plaines, les vallons en sont couverts. La poussière soulevée obscurcit le ciel et le soleil n'est bientôt plus visible. Vite, vite, il court avertir les siens. Il dévale la montagne et déboule dans le campement franc. Trahison ! Trahison ! Marsile s'avance avec ses armées pour nous livrer bataille. Ils sont plus de 100 000. Ami Roland, sonnez de votre corps. Charlemagne n'est pas si loin, il ramènera ses armées. Allons, allons, calme-toi Olivier, dit tranquillement le jeune Roland. Mais je serais bien fou de faire rebrousser chemin à l'armée tout entière dès la première alerte. Marsile nous attaque, dis-tu, mais qu'il se prépare à mourir, lui et tous ceux qui l'auront suivi. Nous saurons bien les réduire à nous seuls, et aucun d'eux ne survivra pour compter ses prouesses. Ami Roland, j'ai vu les Sarrasins d'Espagne. Leur armée couvre la plaine et les montagnes. Voulez-vous tous nous faire mourir? Qui nous blâmerait d'avoir appelé à l'aide? Sonnez de l'olifant. Charles peut encore vous entendre. Mais Roland n'en croit rien. Les Sarrasins ont été massacrés pendant 7 années. Ils ne peuvent pas être si nombreux. Il refuse d'appeler le roi, car il craint la honte bien plus que la mort. Et c'est ainsi qu'il perd de précieuses heures.